Alors de fait, comme vous l'avez dit, mon livre qui s'appelle « Participer, essai sur les formes démocratiques de la participation » date de 2011, hein, donc c'est quand même un livre qui a été écrit il y a une dizaine d'années. Et à l'époque, je crois que c'est toujours d'actualité, il s'agissait non pas de critiquer la participation, mais au contraire de pointer ce qui dans la participation était négligé, en particulier par les politiques d'instauration de systèmes participatifs, un peu plaqué sur d'après des modèles préexistants et énoncé depuis le sommet des hiérarchies. Donc cette revitalisation, je crois qu'elle est toujours problématique. Bien souvent, les actes de participation ou dits de participation sont partiels, incomplets, parfois même mensongers ou illusoires. Est-ce que crier avec les loups, c'est participer? Est-ce que appuyer sur le bouton vers lequel la flèche est pointée, c'est participer? Est-ce que faire, par exemple, activer un dispositif auquel on n'a pas du tout contribué, c'est participer? Est-ce que, disons, suivre le chemin qu'on vous indique pour votre bien, bien sûr, est-ce que c'est ça, participer? Voilà, donc des questions comme ça, elles se posent à peu près dans tous les domaines. Et je voudrais d'abord insister sur un point, c'est que, même si je suis plutôt philosophe politique, enfin je m'intéresse plutôt d'ailleurs aux conditions culturelles des régimes qu'on appelle les démocraties, ou plus exactement les démocraties libérales, je m'intéresse justement autant à la participation sociale qu'à la participation politique. Pour une raison qui est simple, c'est qu'il ne me semble pas que nous puissions devenir des citoyens à part entière si, à l'école, à la maison, à l'hôpital, à l'infirmerie, et même à l'église ou à la synagogue ou ce que vous voudrez, on est exclu de toute possibilité d'influer sur les conditions du vivre ensemble dans les groupes auxquels on se trouve liés. Donc je pense que la participation des citoyens, si vous voulez, la participation politique, donc, elle s'apprend à l'école, elle s'apprend dans la société civile, elle s'apprend à l'hôpital, elle s'apprend à l'usine, etc. Et disons que la citoyenneté sera, et c'est ça qui est intéressant quand on étudie les formes culturelles des démocraties, je dirais que la citoyenneté, elle s'apprend ailleurs que dans l'acte de voter, ailleurs que dans l'acte de désigner des représentants, de juger de leur action après coup, voire de les critiquer, ou au contraire de les plébisciter, de militer, etc. Même si tout ça est très important. Hein. Donc il y a une action politique, si vous voulez. Mais cette action politique, je dirais qu'elle est innervée, elle est vraiment démocratique, dans la mesure où elle est innervée par des choses qu'on a prises en dehors de l'action politique. Et c'est un peu, disons, le privilège de la démocratie, je peux dire, puis en même temps sa fragilité, que de dépendre justement de ce qu'on appelle les mœurs au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, de ce qu'on appelle la culture ou les conditions anthropologiques, plus dans un vocabulaire plus contemporain. Donc voilà déjà une première chose. Donc il n'y a pas, à mon avis, contrairement à une longue tradition, à ce que prétend une longue tradition, il n'y a pas de rupture entre le social et le politique. Disons qu'en démocratie, au contraire, on doit pouvoir penser la continuité entre le social et le politique, et parler de citoyenneté à tout bout de champ à propos de toute forme de participation me semble être un contresens, parce que justement ça masque le travail pédagogique, en quelque sorte, qui doit être à l'œuvre, ou le travail formateur, qui doit être à l'œuvre dans la société, dans tous les pans de nos activités sociales. C'est pas la société, c'est pas une entité, mais dans tous les pans de nos activités sociales, à commencer par la famille. Alors, je rappelle juste quelque chose qui est souvent oublié, négligé, qui se trouve chez Aristote, parce qu'on voit, il y a eu beaucoup de commentaires qui font d'Aristote le penseur de l'homme comme animal politique, le penseur du décrochement, finalement, entre la société civile, quoi, qu'il n'y a pas de société civile dans la Grèce antique, mais en tout cas, le social qui serait de l'ordre de la domesticité, qui serait de l'ordre de la minorité, pour parler comme Kant, qui serait de l'ordre de la subsistance, qui serait de l'ordre du corps, des humeurs, etc. Et puis de l'autre côté, le citoyen qui fait un usage de sa raison, qui se rassemble avec ses pairs, et ses pairs, voilà, au sens que vous dites, sur la place publique, évidemment en mettant derrière lui, parce que c'est confié à d'autres, et en particulier aux esclaves, le soin du corps, le soin de la subsistance, le soin de la condition biologique, si vous voulez, de l'existence. Et, mais c'est complètement faux, parce que Aristote, justement, pense d'une dimension de gouvernement, je dirais presque d'autogouvernement, y compris dans la famille. Et il dit, finalement, même une famille d'hommes, ça n'est pas une famille d'ours, si vous voulez, ça n'est pas un essaim de frelons ou d'abeilles. Une famille d'hommes, c'est une famille dans laquelle règne une certaine filia, alors une certaine amitié. Il y a plein de catégories d'amitié, si vous voulez. Chaque groupe, dans l'idéal, est traversé par une certaine qualité d'amitié. Et donc, et l'amitié spécifiquement humaine, c'est celle qui fait que grâce à des notions communes que nous partageons, nous puissions nous entendre sur les conditions de notre association. Et donc une famille humaine, c'est une famille dans laquelle, une famille spécifiquement humaine, c'est-à-dire pas un collectif, je sais pas, un agrégat, mais une famille spécifiquement humaine, c'est une famille dans laquelle tous les membres de la famille discutent sur les conditions mêmes de leur association. Et ça, je crois que c'est très fort. Donc tout ça pour dire aussi que la participation, même si il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de finesse, je dirais presque psychologique, pour en décrire tous les moments et toute la complexité, en réalité, elle va de soi. Et c'est l'intuition constitutive, d'ailleurs, d'un certain nombre de fondateurs de la démocratie libérale. Elle va de soi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vaille la peine d'être vécu, sinon par l'intermédiaire d'une participation. Il n'y a rien qui puisse être véritablement nourrissant, formateur, assurer notre croissance et notre développement, sinon la participation. Et donc, en fait, il y a partout dans notre existence, enfin en tout cas, bon, évidemment, il faut le souhaiter, des moments de participation. Mais il y a aussi des vastes secteurs de notre vie où cette participation est mise en berne, voire supprimée, ce qui est évidemment le cas d'une politique. Hein. Il y a des politiques qui suppriment les possibilités de participation sociale comme de participation politique. Mais voyez que, par exemple, un régime autoritaire, c'est un régime despotique ou fasciste, justement supprime la participation sociale parce que, en supprimant la possibilité de se rencontrer, en supprimant la possibilité de s'associer, en supprimant la possibilité de se parler même, de converser au coin de la rue, dans un salon, au café, etc., eh bien, supprime la possibilité même de la citoyenneté. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le droit d'expression et d'assemblée est un droit absolument fondamental, de même que le droit de mobilité, c'est-à-dire le droit de quitter les associations dont nous sommes membres. Alors j'en viens à la participation proprement dite, pour ne pas être trop longue, je vais reprendre des éléments donc, qui sont dans mon livre et qui sont d'ailleurs beaucoup plus développés que ce que je vais faire, mais justement il m'a semblé que la participation ou le fait de participer, il vaudrait mieux utiliser le verbe, c'est un feuilletage en fait, c'est un feuilletage entre différentes phases qui n'existent pas à l'état pur dans la vie sociale ou dans la nature, mais qu'on peut distinguer pour les besoins de l'analyse, et il se trouve que cette distinction disons a une certaine utilité. Elle a d'ailleurs été mobilisée parfois par des anthropologues ou des sociologues ou des politistes pour faire des enquêtes de terrain, et puis aussi on peut l'utiliser en morale, enfin dans la philosophie morale ou dans l'examen des valeurs, si vous voulez, pour voir finalement à quel degré de réalisation de participation on est arrivé. Je dirais d'abord, excusez-moi, j'ai oublié un tout petit point, justement pour dire que cette participation qui est normale et qui est au cœur, ou qui devrait être au cœur de la vie sociale et de la vie politique, et qui est parfaitement banale, et aussi, je reviens un tout petit peu en arrière, et aussi je dirais, l'alpha et l'oméga finalement, la justification à la fois théorique, morale, psychologique, anthropologique de la démocratie libérale, ou des démocraties si vous voulez, chez les fondateurs. Pourquoi ? Parce que, j'y reviendrai après, parce que, si vous voulez, le fait de participer est formateur de l'individualité de chacun. C'est-à-dire que, indépendamment d'une participation, il ne peut y avoir que des individualités tronquées, détruites, voire non développées, voire non humanisées, etc. etc. Donc, on va voir dans la participation, c'est ce que disait Jefferson, déjà, ou même Montesquieu, ou Tocqueville plus tard, etc. Enfin, soit on participe, soit on n'arrive jamais même au seuil de ces virtualités en tant qu'humain. Ça n'est pas un mode de vie parmi d'autres, c'est le seul mode de vie spécifiquement humain possible. Donc voilà ce que je voulais dire pour insister un peu sur l'importance justement de considérer la participation non pas comme une option, mais comme une nécessité de premier ordre. C'est se gouverner sans un maître, comme disait... Sachant que le gouvernement, si on reprend Aristote, il y a un gouvernement dans la famille, le fait de discuter ensemble grâce à nos notions communes des conditions de notre association, c'est déjà de la politique, si vous voulez. Voilà, faisons. Voilà, donc la précision que je voulais amener pour mettre mieux en perspective cette tripartition, en quelque sorte, de la participation que je vais vous présenter. Cette tripartition, donc, on peut l'exprimer entre, avec les termes suivants, prendre part, apporter une part, recevoir une part. Ce qui correspond d'ailleurs à des usages assez banals hein, dans le langage commun. Donc, prendre part, d'abord. Prendre part, il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais juste le mettre en perspective, en l'opposant, ça me semble important, au faire partie. Le prendre part, si vous voulez, est une des modalités de la vie associative qui n'est peut-être pas suffisamment valorisée, qui n'est peut-être pas suffisamment notée, mais qui fait que, par exemple, il y a une grande différence entre être en face à face et se parler à distance via Skype ou via des téléconférences, ces choses de ce genre. Il y a une très grande différence entre s'exprimer par l'intermédiaire d'une opinion toute faite et mettre en débat ces opinions, les exprimer de telle manière qu'elles soient à la fois écoutées et discuter, etc., etc. Donc le prendre part, si vous voulez, c'est comme ici, là. Je pense que tout le monde prend part, sans pour autant que nous fassions partie. C'est-à-dire que on peut, à partir de la différence entre prendre part et faire partie, établir aussi la distinction qui devrait être établie, qui devrait exister, et qui existe de fait, entre ce qu'on appelle des communautés et des collectivités, ou plus exactement des collectifs. Bon, je ne veux pas forcer le vocabulaire, mais clairement, il y a toutes sortes de manières de s'associer. Il y a des manières statistiques de former des groupes. Par exemple, les femmes qui ont entre 37 et 38 ans, voilà, ça forme un groupe, si vous voulez. Mais ce groupe-là est une forme d'association, mais c'est une association statistique. Donc, ce ne sont pas des gens qui se connaissent. Il y a des groupes qui sont des foules. Vous voyez Le Bon, par exemple, hein, la psychologie des foules. Il y a des groupes qui constituent des masses. Il y a des groupes qui constituent des agrégats. Il y a des groupes géographiques. Il y a des groupes, etc. Donc, il y a toutes sortes de groupes, si vous voulez. Mais en général, le terme de collectif, qui se trouve chez Durkheim, qui se trouve chez Marx, qui se trouve chez Freud. Le terme collectif, qui était plutôt un adjectif d'ailleurs c'est chez ses fondateurs, désigne plutôt des groupes qui ne sont pas formés par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une association libre et volontaire, mais qui sont en général inconscients d'eux-mêmes. Par exemple, la conscience collective chez Marx est une conscience qui agit sous la surface de la dynamique de l'histoire qui quant à elle est nécessaire. La conscience morale chez Durkheim, qui l'assimile au fait social, est également une conscience qui agit sous la surface des comportements sociaux et qui, d'une certaine façon, téléguide les individus à s'associer, qui exerce sur chacun d'entre nous une contrainte. Nous sommes socialisés parce que les valeurs de la masse sociale, d'une certaine façon, nous impactent et nous conduisent à adopter, finalement, des comportements qui sont dans la norme. Il en va de même chez Freud, hein, vous voyez, ce qu'il appelle la conscience collective, etc. Donc, je ne veux pas insister, mais si vous voulez, le collectif, historiquement, a été associé à la contrainte et à l'inconscient. C'est une contrainte qui s'exerce sous l'effet d'une masse inconsciente de stratification psychosociale et qu'il n'appartient à personne de pouvoir modifier, sinon justement aux délinquants d'un côté et aux surhommes ou aux prophètes de l'autre. Ça, c'est toujours les deux personnages, si vous voulez, hors normes, qui ne font pas partie d'eux. Alors, il y a par ailleurs, donc ça c'est un aspect du collectif, mais un autre aspect qui me semble important et qui peut alimenter notre discussion, c'est justement l'idée que cette association très intime qui ne passe pas par la décision et la volonté de chacun, qui ne passe pas par la conscience de chacun, mais qui agit sous la surface en quelque sorte de notre conscience et de nos choix, serait bonne pour le vivre ensemble. Que grâce à, alors il y a énormément de textes, y compris fascistes, sur la question, que grâce à ce qui nous lie, ce qui nous relie, via nos racines, via notre inconscient, via nos mythes, via nos traditions, via notre impensé, via nos croyances religieuses, etc. Que tout ça, finalement, c'est le ciment social par excellence, et que tout le reste, c'est artificiel, c'est conjoncturel, c'est contingent, etc. Et donc on a, surtout en France, pas surtout en France, mais dans beaucoup d'endroits et à travers beaucoup de philosophies, on a une valorisation finalement du collectif par opposition à l'association qui serait libre et volontaire, c'est-à-dire réputée être fondée soit sur des promesses, des contrats, soit justement sur des actes d'affiliation ou ce qu'on pourrait appeler tout simplement des élections. Hein. Par exemple, la famille est un organisme naturel en quelque sorte, mais on peut aussi évidemment passer d'une famille naturelle à une famille élective, c'est-à-dire effectivement vouloir son père et sa mère, vouloir sa sœur et son frère, plutôt que de les vivre comme une fatalité biologique du sort. Donc, je veux dire, cette dimension élective, moi, elle me semble très importante et c'est un bon moyen aussi de penser, je pense, la participation. C'est vraiment une forme majeure de participation. Donc, ce qui est intéressant avec le prendre part par opposition au faire partie, c'est que chacun compte pour un. C'est d'ailleurs un peu dans le vocabulaire de la démocratie et du vote, la justification. On ne vote pas en groupe, si vous voulez. Et c'est important que les droits soient individuels, soient ceux de l'individu et de l'individu qui est le citoyen. Donc, on ne vote pas en groupe, c'est chacun, parce que chacun compte pour un. Et comme le disait Winnicott aussi, parce que finalement, dans la mesure où dans un acte de voter, on est livré à soi-même en quelque sorte et en relation avec sa propre conscience, eh bien on peut aussi agir en contradiction par rapport à ce qu'on a proclamé et faire autre chose que ce qu'on a dit qu'on ferait au moment où on est dans l'isoloir. Et ça, c'est important, c'est une vraie liberté. Je crois qu'on ne peut pas négliger cette liberté qui est dans l'isoloir, même si ce n'est pas là que se forge la citoyenneté de A à Z. Donc voilà un élément. Donc si vous voulez, si le collectif est plutôt fusionnel, si le collectif est fondé sur l'allégeance, sur la loyauté, sur l'adhésion à ce qui nous pétrit d'une certaine conscience morale, sur le sacrifice même de l'individualité, on peut penser la fraternité par exemple. La fraternité est une forme de faire partie sur le fait que finalement... D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que la devise républicaine initiale, c'était liberté, égalité, la fraternité ou la mort. Et cette idée que finalement la fraternité serait une valeur, il y a eu beaucoup de discussions, hein, ce n'est qu'en 1848 que ce terme de fraternité a été finalement sélectionné contre celui de solidarité, qui me semble être beaucoup plus démocratique. Et c'est l'idée de la fraternité, c'est justement cette idée qu'on fait partie d'eux, on est tous issus de la même matrice, on a tous le même père, et même si on a des fonctions différentes, il n'y a pas d'égalité hein, dans le collectif, pas nécessairement, l'explique très bien à propos des foules, mais en tout cas, voilà, on est justement disons, on fait allégeance finalement à un groupe dont on s'estime être une partie sans finalement en mettant entre parenthèses, voire en sacrifiant, comme dans la franc-maçonnerie c'est précisé, en mettant entre parenthèses, voire en sacrifiant son individualité. Alors très rapidement, le prendre part justement non seulement n'implique aucun sacrifice de l'individualité, mais au contraire, n'existe que dans la mesure où chacun finalement, disons, prend en charge sa propre individualité, la développe ou la fait valoir et disons la rend présente à l'être ensemble que forme la communauté. Et ici, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que on peut être vraiment à égalité dans un dispositif ici de participation, même si les rôles sont extrêmement contrastés, même si chacun finalement est tout en étant co-présent n'est pas co-contributeur à la situation. Et ce qui est intéressant aussi dans le prendre part, il y a plein de choses à analyser, mais c'est le cas aussi d'une randonnée, d'un repas entre amis, bien sûr d'une assemblée de type politique ou social, il y a, ce qu'il permet, c'est la pluralité des fonctions et des rôles. C'est-à-dire que ici, ça a été souligné dès l'introduction, on n'est pas là au même titre. Et alors que dans le collectif, oui, vous êtes tous là au même titre. Sinon, c'est plus un collectif, si vous voulez. Et donc, le prendre part me semble être fondamental. On doit vraiment penser, si on veut penser à la démocratie et justement, disons, l'empowerment, comme on dit, la remise en capacité des gens qui ont été privés de la possibilité d'être partie prenante des groupes auxquels ils se trouvent reliés, y compris statistiquement, soit en reprise, justement, d'activité, eh bien, il faut absolument les considérer comme membres d'un prendre part, d'une communauté formée par un prendre part, et non pas comme faire partie. C'est-à-dire, et effectivement, quand on regarde même l'histoire de la médecine et enfin, qui relaie évidemment ou qui est complètement en phase avec l'histoire de l'éducation, ou de l'instruction plutôt, par opposition à l'éducation, et l'histoire de toutes sortes d'institutions républicaines, ou évidemment monarchiques ou despotiques ou ce que vous voudrez, eh bien on se rend compte que c'est le faire partie qui a prévalu et que se faire partie justement crée de la hiérarchie, crée des inégalités, crée des sachants et des non-sachants, crée des compétents et des non-compétents, crée des majeurs et des mineurs, etc. etc. Et donc, avec le prendre part, ce qui est pensé, justement, c'est la possibilité à chacun d'avoir une voix dans un concert où, qui est formé d'une multitude de contributions et non pas d'un courant unique. Alors, j'en viens rapidement au 9 minutes, bon, alors je vais vraiment accélérer. Donc, le contribuer, donc ça c'est la deuxième partie, ça c'est peut-être plus exigeant, mais en même temps, je dirais qu'il y a des contributions de toutes sortes de qualités. Je dirais que le fait d'apporter une part, ou encore de contribuer, me semble être aussi une dimension fondamentale de la participation. Alors, pour rester dans le registre de la médecine, je dirais que Hippocrate a pensé la médecine de cette façon. Et c'est vraiment intéressant de relire Hippocrate aujourd'hui, parce qu'on se rend compte quel est le gouffre qui sépare sa philosophie de la pratique de la médecine, quoi qu'elle change. J'ai été, jusqu'à aujourd'hui. Et justement, chez Hippocrate, tout est participatif et tout est contributif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imaginer de pratiquer la médecine, qu'il pratiquait d'ailleurs sous un platane, d'où mon livre sur les places. La place, c'est la place du platane, et le platane, c'est le lieu de la participation. L'ombre du platane, plus exactement, qui est d'ailleurs réputée très saine, très bonne pour la santé. Et donc, Hippocrate considère que c'est par l'intermédiaire de la contribution du patient à l'établissement, en quelque sorte, de savoir de son état, qu'il peut éventuellement parvenir au soin, le soin étant la remise en équilibre du malade ou du patient. D'ailleurs, il a une vision très préventive de la médecine. Et par ailleurs, disons que le patient lui-même est un tout, c'est un ensemble de parties, les humeurs, il y en a quatre, un ensemble d'éléments, si vous voulez, qui doivent contribuer les uns avec les autres, être ensemble, d'une certaine façon, pour parvenir à l'équilibre. Et donc, par ailleurs, il y a aussi l'idée qu'entre le patient et le médecin, s'établit une relation analogue à celle qui devrait s'établir entre les quatre humeurs, qui est également analogue entre celle qui s'établit entre le couple que forment le patient et le médecin et leur environnement général, d'où le platane, la place, la ville, les institutions, la nature, etc. etc. Et donc là, on est vraiment dans des dispositifs holistiques, si vous voulez, ou holistes, qui sont absolument fascinants à suivre et qui, évidemment, sont en contradiction complète aujourd'hui par rapport à notre notion experte de la médecine. Donc ce qui est intéressant avec la contribution, c'est que... J'en dis juste quelques mots. D'abord, c'est l'idée, elle me semble frappée au coin du bon sens, bien qu'elle ait été oubliée, ou en tout cas non mise en œuvre, l'idée que chacun a sur sa propre vie et sur ce qu'il ressent, disons, une opinion ou un avis qui est particulièrement autorisé et qui, en tout cas, lui est propre et qui ne peut pas être remplacé par l'opinion d'autrui. Et cette idée, non pas forcément que chacun sait bien ce qui est le mieux placé pour savoir ce qui est bien pour lui, mais en tout cas que chacun est le mieux placé, c'est d'ailleurs Socrate qui le dit, chacun est en bonne place, et même celui qui occupe la meilleure place pour savoir si, par exemple, la chaussure qui lui faisait mal et qu'il a confiée à son cordonnier cesse de blesser son pied, et que personne ne peut dire ça pour lui. Et ça, c'est l'idée que chacun, en tant qu'acteur, en tant que contributeur, donc, et doté d'une position dans la vie qui est seule à occuper et qui est absolument irremplaçable, y compris pour l'énoncé de ses intérêts, de ses besoins et de ceux des groupes auxquels il se trouve lié, me semble être une vérité fondamentale qu'il faudrait en quelque sorte réinjecter dans toutes nos institutions et dans toutes les modalités de notre vie commune. Donc voilà un aspect donc aussi un peu au fondement de la pensée démocratique, mais qu'on va retrouver ensuite dans toutes sortes de domaines. En particulier, je dirais que ce qu'on appelle, vous avez parlé du pragmatisme et de John Dewey, qui est un fondateur du pragmatisme, mais ce qu'on appelle justement dans la pensée pragmatiste l'expérience, l'art comme expérience, l'expérience et la nature, l'expérience politique, l'expérience sociale, l'expérience du patient, etc. Ce qu'on appelle l'expérience se fait toujours à la première personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre par procuration des expériences, et personne ne peut faire des expériences à votre place. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut déléguer. Ça, c'est une limite de la délégation de la représentation en démocratie. Et non seulement parce que, si vous voulez, l'expérience, elle est vécue, elle est la mienne ou la nôtre, mais sinon, ça n'est pas de l'expérience, mais aussi parce que l'expérience est la seule manière de grandir. C'est la seule manière de guérir. C'est la seule manière, disons, de faire en sorte, en quelque sorte, que demain ou aujourd'hui ne soit pas la pure et simple duplication de ce qui était là hier. Donc je dirais que la pensée de l'expérience dans le pragmatisme, elle est très importante parce que en gros elle est pensée comme la relation entre une situation que l'on subit et l'invention d'un plan d'action destiné à transformer cette situation subie en une situation telle que un tremplin énergétique et un cours d'action puissent être réeffectuer en quelque sorte, réinjecter. Donc il y a des contributions absolument à tous les niveaux. Par exemple, j'ai pas mal étudié les jardins thérapeutiques dans mon livre La démocratie au champ, et ça c'est très intéressant de voir que ces jardins thérapeutiques qui sont en fait des services hospitaliers, sont des jardins dans lesquels il y a une place pour tout le monde. Ils ont été conçus pour des vétérans qui étaient dans un état psychologique ou physique lamentable dans bien des cas, et justement qui soigne au lieu d'être soigné, qui donne la vie au lieu de tuer, enfin, et des choses comme ça qui sont des propos forts et qui sont des accompagnants au retour à la santé par l'intermédiaire d'une expérience dont l'individu est le gérant en quelque sorte de A à Z. Et ça c'est vraiment important, la figure du jardin thérapeutique, moi elle me semble être aussi une bonne manière de comprendre la contribution. Donc j'arrive là, parce que malheureusement le temps va me manquer, j'arrive à la troisième partie, la troisième aspect ou phase de cette affaire de participation, à savoir bénéficier. Alors je dirais qu'il n'est pas possible, y compris un enfant, si vous voulez, un enfant qui fait un château de sable, a besoin, bien sûr, d'une certaine façon son château c'est le sien, et en même temps, si personne... Si le château, en général, qui l'adresse à quelqu'un, il va dire « Regarde comme c'est beau mon dessin, regarde comme ça. » Si il n'y a pas la reconnaissance de cette contribution qu'il apporte, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se brise dans le moment. Après, je ne veux pas dire la personnalité, mais il y a quelque chose qui manque dans la construction de la personnalité à partir du moment où la reconnaissance de la part apportée n'est pas là. Et ça, c'est quelque chose dont beaucoup de gens souffrent, y compris historiquement. C'est-à-dire que... plein de gens font des choses qui comptent dans le déroulé de notre histoire commune et qui ne sont pas prises en compte. Et je dirais que le premier bénéfice, la part dont chacun doit bénéficier pour devenir le membre complet d'une société donnée, y compris, et quel que soit l'état dans lequel il est, quelle que soit son origine, quelles que soient ses capacités, quels que soient ses goûts et ses inclinations, eh bien, dépendent de ce que cette société lui apporte en termes d'abord de reconnaissance. Et ça, il me semble que la contribution, si vous voulez, elle est toujours transformatrice. Mais pour, vous voyez, là on est dans un dispositif transformateur, c'est-à-dire que pour que la contribution ait une chance d'être réellement une contribution, il faut non seulement qu'elle soit reconnue comme telle, mais il faut également que le groupe auquel elle est adressée ait cette souplesse, cette plasticité qui lui permettent de faire une place au nouveau venu avec sa contribution. Et là, bon, on a parlé des accès, etc., de l'aménagement des espaces communs pour qu'ils soient ouverts effectivement à tous, et en particulier aux gens en situation de handicap. Et ça, c'est... Enfin, pourquoi on n'y a pas pensé plus... Enfin, voilà, bon, bref, j'ai pas de mots pour parler de, enfin, pour dire l'absurdité et l'inhumanité dans laquelle on est. Donc les espaces réservés, c'est un énorme problème également. Bon, donc je voudrais dire que cette plasticité du groupe, cette souplesse, et puis il n'est possible que dans la mesure où il y a effectivement comme une conscience du groupe qui dicte, je fais de la place à. Je suis modifié par les interventions des uns et des autres. Je suis modifié par le nouveau venu. Je suis modifié par sa contribution. Et finalement, je dirais qu'il y a encore... il y a évidemment une condition de la participation, qui est que personne ne peut contribuer, que ce soit en termes de vie politique, que ce soit en termes d'invention, que ce soit en termes artistiques, que ce soit en termes je dirais simplement amicaux, dans un cercle même étroit. Personne ne peut contribuer s'il ne bénéficie pas des ressources des groupes vis-à-vis desquels sa contribution est possible et dans lesquels sa contribution va pouvoir s'inscrire afin de durer, afin d'avoir une durée, parce que évidemment il faut que tout ça ait une certaine durée. Et là, en l'occurrence, c'est là qu'on rejoint voilà, des questions d'anthropologie générale ou des questions de répartition des biens et des ressources. C'est-à-dire, par exemple, si un nouveau venu ne peut pas accéder à des cours de français langue étrangère, un migrant en première génération, si vous voulez, eh bien, il y a, disons, ses capacités, ses possibilités de contribution seront diminuées d'autant. Par exemple, la langue n'est pas quelque chose qu'on respire ou dont on est imbibé. La langue, c'est quelque chose qui s'apprend. Et cet apprentissage, il prend 10 ans, 15 ans. Enfin, vous savez bien, enfin, on a tous appris notre langue. Et c'est un travail, d'ailleurs, qui ne s'arrête jamais. Et donc, la mise à disposition des ressources d'individuation dans une société donnée sont des mises à disposition de ressources de participation. Et c'est justement ce niveau-là qui, très souvent, est extrêmement problématique parce que, au lieu de considérer les institutions comme des organes de répartition de ressources d'individuation, pluriels, on les considère au contraire comme des organes d'accaparement des ressources, hein, d'accaparement des ressources, c'est-à-dire de sélection. Et ça, je crois que c'est vraiment un biais pour observer finalement les degrés de participation qui sont réalisés dans nos sociétés. Voilà, je vous remercie.